Radio Kasi, Grand Témoin.
Avec le même plaisir pour le même devoir, Grand Témoin a l'honneur de vous présenter aujourd'hui Bénin Poko, ambassadeur de la République démocratique du Congo en République sud-africaine. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue dans le studio de Radio Kasi.
Merci.
C'est la première fois de venir à Radio Kati?
Non, non, j'ai déjà été ici.
Avant d'être nommé ambassadeur
Non, non, durant mon poste en tant qu'ambassadeur, j'ai déjà été interviewé ici à deux, trois reprises.
Au cours de cette émission, nous allons essayer de vous faire découvrir auprès de nos auditeurs, de parler de votre fonction actuelle, mais cela ne nous empêchera pas d'évoquer vos fonctions antérieures. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler du 29e sommet de la SADC, sommet au cours duquel Joseph Kabila, président de la RDC, a accédé à la présidence de cette organisation sous-régionale. Bénin Poko, commençons par votre biographie. On connaît déjà votre nom. J'espère qu'il est complet. Bénin Poko, c'est ça?
C'est ça.
Lieu et date de naissance?
Bon, écoutez, je suis né dans la ville de Mbandaka. Je fais mes études, comme tout le monde, dans les écoles des missionnaires, et puis l'école laïque, l'Athénée Royale. Et puis après, je suis allé étudier aux États-Unis, où j'ai fait une licence en économie et une maîtrise en finance internationale.
On est encore dans la biographie de Bénin Poko, état civil, si ça vous dérange pas.
Non, je suis marié, père de 8 enfants.
Et parlons de votre enfance, comment avez-vous grandi, dans quelles conditions?
Bon, mon père était un pêcheur. Il était pêcheur dans un village aux environs de Mbandaka, c'est là où je suis né. Et bon, comme tout papa, il voulait que je poursuive sa profession, c'est-à-dire la pêche. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que j'étais un peu paresseux, donc je ne pouvais pas devenir pêcheur comme lui. Il m'a permis d'aller à l'école. Donc, je me suis inscrit à une école de missionnaire.
À Mbandaka?
À Mbandaka même, oui.
C'est où vous obtenez votre certificat d'école primaire?
Oui, école primaire. Et puis de là, on a créé les écoles laïques pour la première fois. Donc, je suis allé à l'école laïque. Toujours à Mbandaka, et puis de l'école laïque, on avait permis à certains Congolais d'entrer dans le système de l'Athénée Royale, c'est-à-dire c'était une école belge, et là j'ai fait l'Athénée Royale, et puis j'ai terminé les humanités modernes à l'Athénée Royale.
Bénin Poko, vous êtes originaire de l'Équateur, votre nom a une signification particulière?
Non, pas du tout.
Et quel est le souvenir qui vous a le plus marqué dans votre enfance?
Bon, j'ai été toujours un peu un leader parce que je faisais le scoutisme, ça m'a beaucoup plu. Et puis, je joue au football, j'adorais le football comme tout enfant. Et j'ai même au niveau de l'université, je joue au football aux États-Unis. Donc, mais surtout, grandir au village, on grandit avec des valeurs traditionnelles, des valeurs morales, une éducation correcte, c'est-à-dire le respect des adultes, le respect des biens d'autrui, le respect de la maman. Et puis, ce qui m'avait marqué le plus, c'est que, étant donné qu'on était dans un petit village de pêche, on allait à l'école, revenait, mais les parents ne vous obligeaient pas de faire des devoirs. Et ils ne savaient même pas ce qui se passait à l'école. Alors, il fallait être un enfant indépendant, indépendant d'esprit, pour pouvoir réussir. Parce que là, vraiment, vous êtes tout seul. Vous occupez de vos études. Si vous étudiez, c'est votre affaire. Si vous négligez, ça aussi, c'est votre affaire.
Et donc, chacun était libre de faire ce qu'il voulait.
Chacun est libre de ce qu'il voulait, mais alors, il faudra s'imposer une discipline personnelle, même à ce bas âge-là. Et c'est ce que je fais.
Et enfant déjà, vous rêviez d'occuper des grandes fonctions dans ce pays?
Non, à ce moment-là, bon, à l'école primaire, on avait une école secondaire qui se limitait au niveau de troisième secondaire. Donc, notre vision n'allait pas plus loin que ça. Au niveau de l'école primaire, l'ambition était de déterminer l'école secondaire au niveau de troisième secondaire et devenir un moniteur, comme on les appelait dans le temps, un enseignant, simplement. C'est quand on a créé les écoles-là que ça nous a ouvert de nouveaux horizons. On s'est dit, bon, tiens, donc on peut aller jusqu'au-delà du troisième secondaire. En ce moment-là, on a parlé des humanités, on peut aller jusqu'à sixième. Oh là là, ça c'est formidable, si on peut aller plus loin et faire un cycle de six années. C'était étape par étape, les portes s'ouvraient, les horizons devenaient un peu plus clairs. En ce moment-là, on allait vers l'indépendance, parce que moi, j'ai 65 ans, j'ai grandi pendant la période coloniale, avec l'indépendance en 60, et au fur et à mesure qu'on avançait à l'âge, on voyait qu'il y avait de nouveaux horizons. horizon qui s'ouvrait devant nous. Et je me souviens, les amis qui étaient avec moi à l'école sont allés dans l'armée et ils avaient l'ambition de devenir des pilotes, des ingénieurs dans l'armée. Ils disaient, tiens, alors moi, dans ces conditions, qu'est-ce que je deviens? Alors c'est à partir de l'Athénée que je me suis fixé l'idée de faire des études économiques. J'étais particulièrement intéressé à l'économie agricole. Quand on terminait l'Athénée Royale, on avait automatiquement une bourse d'aller en Belgique ou en France. Parce qu'il y avait beaucoup de bourses. Après l'indépendance, il y avait beaucoup de bourses. Mais moi, puisque j'étais fasciné par la langue anglaise, je me suis dit non, je préfère aller aux États-Unis. Mais j'ai dû attendre 2 ans avant d'obtenir une bourse américaine. Puis je suis allé aux États-Unis.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Le Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Benin Poko, ambassadeur de la RDC en République sud-africaine. On parlait de la bourse. Après avoir obtenu votre bourse, vous êtes parti étudier, continuer l'université à l'étranger.
Oui, il y avait des bourses américaines. Il y avait 15 bourses pour les États-Unis. Il y avait une affaire de 300 candidats qui ont postulé. Et puis à la fin, après les interviews, après un processus très rigoureux de sélection, on a sélectionné 9.
Seulement sur 300.
Sur 300, 9. Alors nous sommes allés. Mais moi, j'avais un handicap parce que je parlais pas seulement anglais. Ce sont tous les 9. Il y avait 4 qui venaient du Katanga, 2 du Kasai, 1 du Kivu et 2 du Kinshasa. On est arrivé aux États-Unis, on nous a donné 10 semaines pour apprendre l'anglais. Vous réussissez, vous allez à l'université, vous échouez, vous rentrez chez vous. Alors, à partir du pays, il était question que le grand Congolais nous paye le billet d'avion et que le grand Américain, bon, nous prenne en charge une fois arrivé à New York. Le grand Congolais a dit qu'il n'avait pas le moyen. Ils ont demandé à l'agence maritime belge de nous mettre dans les bateaux cargo, les bateaux qui transportaient les cuivres, partis de Lobito jusqu'à New York, et c'est comme ça qu'on a voyagé tous les 9, on a voyagé dans un bateau cargo.
Et pendant combien de mois comme ça jusqu'à New York?
Ça nous a pris 2 semaines. Une semaine de Lobito jusqu'à Dakar, on a fait escale, et puis de Dakar à New York, c'était aussi 6 jours, quelque chose comme ça.
Et vous avez fait combien d'années aux États-Unis?
Bon, j'ai fait pratiquement 9 ans aux États-Unis, dans un premier temps, parce que j'ai fait 6 ans d'études, puis 3 ans d'expérience professionnelle. Donc, j'ai une licence en économie et une maîtrise en finance internationale, et j'ai rejoint la Citibank à New York. Après cela, la Citibank m'a envoyé à Kinshasa pour monter la Citibank ici, en 73, et là, je suis resté avec la Citibank Kinshasa jusqu'à 76. De là, je suis allé à Nairobi, de Nairobi, on m'a envoyé de nouveau, j'ai eu une promotion, et je suis allé
Toujours à la Citibank.
J'étais le premier Congolais, si pas le premier Africain, à être fonctionnaire international de la Citibank. Je suis allé à New York pour gérer le département Afrique de la Citibank. Et de là, j'ai fait 2 ans à New York et après, on m'a envoyé en Égypte. De l'Égypte, je suis allé à Athènes, dans le bureau régional de Citibank Athènes, qui s'occupait du Moyen-Orient et tout ça. J'ai quitté la Citibank parce que moi, je voulais travailler en Afrique. La Citibank voulait me maintenir au Moyen-Orient, dans les pays en Arabie Saoudite. J'ai refusé. Donc, j'ai rejoint la Chase Manhattan Bank.
Vous avez démissionné de la Citibank?
Oui, oui. Et j'ai rejoint la Chase Manhattan Bank parce que là, on m'a dit, si vous venez travailler chez nous, on vous envoie en Afrique. Parce que nous allons ouvrir des succursales partout en Afrique et vous allez diriger nos opérations en Afrique. Alors, ils m'ont dit, nous avons des problèmes au Libéria. Vous allez d'abord au Libéria, gérer notre succursale au Libéria. Je suis allé au Libéria, il y a Ekou Dekta, les Samuel Do. Quand je suis allé au Libéria, l'actuelle présidente de la République libérienne, Madame Ellen Johnson Sirleaf, était ministre des Finances. Et c'est là où je l'ai connue, une dame dynamique, très bien. Après 2 ans de fonction au Libéria, avec tous les problèmes qu'on a eu au Libéria, la Chase Management a décidé de fermer toutes ses succursales en Afrique. Donc, fermer toutes les opérations en Afrique, c'est trop compliqué. Et vous, M. Ben Poko, on va vous transférer au Venezuela parce qu'on a besoin de vous en Amérique latine. Moi, j'ai dit non, c'était pas entendu comme ça. Il était question que je poursuis ma carrière en Afrique. Je suis africain, j'aimerais rester en Afrique. Je dis bon, nous, on ferme en Afrique, désolé, vous allez au Venezuela. J'ai refusé. Comme j'avais des amis à la Banque mondiale, je suis devenu consultant à la Banque mondiale et USAID pendant 5 ans. Je suis allé ce temps.
Vous avez passé beaucoup de temps dans les banques.
Oui. Disons
presque toute votre expérience professionnelle.
Exactement.
Mais comment vous vous retrouvez aujourd'hui ambassadeur de la RDC en République sud-africaine?
C'est une expérience qui m'a beaucoup servi parce que de la Banque mondiale, je suis allé au PNUD. J'ai fait 10 ans au PNUD.
Mm-hmm.
Et c'est moi qui ai ouvert le bureau du PNUD en Afrique du Sud.
Okay.
Je connais, par exemple, monsieur Doss, c'était un collègue du PNUD. On était au PNUD ensemble à New York. Quand il était à la représentation ici à Kinshasa, moi j'étais à la représentation en Afrique du Sud. Et j'ai servi le PNUD pendant 5 ans. 5 ans, c'est-à-dire jusqu'à 2000. En 2001, il y a eu changement de régime chez nous. Le président Joseph Kabila est devenu président de la République. Il m'a offert le poste d'ambassadeur en Afrique du Sud et j'ai accepté.
Et vous vous connaissiez avant ou...
Non, quelqu'un lui a parlé de moi. Alors je dis, bon, pour une fois, je l'ai servi mon pays. C'était vraiment un changement de profession, d'orientation et tout ça. Et là, je suis ambassadeur depuis 2001. L'expérience de banquier m'a beaucoup servi. C'est ainsi que je peux parler aux investisseurs. On a mobilisé beaucoup d'investisseurs sud-africains depuis qu'on est là. On a obtenu une ligne de crédit d'à peu près 2 milliards de dollars des institutions financières sud-africaines pour financer des projets au Congo, surtout des projets des entreprises publiques. Toute cette expérience de banquier m'a beaucoup servi parce que je parle le même langage. Je parle le langage du banquier, donc on se comprend facilement. Il a fallu convaincre les banques sud-africaines ou les investisseurs que le Congo était prêt à recevoir des investissements étrangers et que les risques souverains, c'est-à-dire les risques qu'on trouve dans l'État congolais, ils sont souvent exagérés. J'ai même introduit une notion de régionalisation des risques. En d'autres termes, je le répète ceci. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes en Ituri, par exemple, qu'on ne peut pas faire des affaires au Katanga. C'est le même pays, mais ce sont des régions différentes, avec des risques différents. Le risque qu'on a au Katanga n'est pas le même que le risque qu'on a dans le Kivu, par exemple.
Uh-huh.
Ça m'a pris plus d'un an, et finalement, j'ai accepté cette notion de régionalisation des risques. C'est ainsi que vous avez toutes les sociétés minières sud-africaines, pratiquement, sont aujourd'hui au Congo, y compris le BST Bulletin, qui est en train de s'installer là. Donc, c'est une expérience qui pourrait être transférée et être bénéfique, parce qu'on n'a pas besoin seulement d'avoir fait des actions internes.
Et pour devenir ambassadeur.
Pour devenir ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui travaille dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie économique, qui représente toutes les institutions de son pays. Donc, on peut avoir un background d'ingénieur ou.
D'économiste, comme vous.
D'économiste, et puis on peut servir son pays, surtout si on aime son pays.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Ça fait 8 ans que vous êtes ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. Est-ce facile pour vous la fonction que vous exercez actuellement?
Non, j'aime beaucoup ma fonction. Parce que on a quand même fait beaucoup de progrès. Quand j'étais nommé, une des premières fonctions que le président de la République m'avait confiée, c'est l'organisation du dialogue intercongolais. Il fallait trouver un pays pour accueillir le dialogue intercongolais. Et je me suis battu pour que ce soit l'Afrique du Sud. Ensuite, il a fallu que l'Afrique du Sud nous accompagne dans le processus électoral, dans la formation du gouvernement des 1+4, ainsi de suite. Donc, on a fait l'Afrique du Sud un partenaire stratégique. Donc, je suis très, très fier de ce qu'on a pu conclure en Afrique du Sud et j'aime beaucoup ça.
Alors, monsieur l'ambassadeur, ça fait 8 ans que vous vivez là-bas. Quelles sont les conditions des villes congolais qui vivent en Afrique du Sud? Parce qu'on apprend que la plupart des Congolais qui sont là-bas ne vivent pas dans des très bonnes conditions.
Bon, ça dépend. Vous avez des Congolais qui sont des professionnels, il y aura des médecins, des ingénieurs, des professeurs d'université, ceux-là vivent très bien. D'ailleurs, nos médecins...
C'est une minorité?
Oui, mais dans toute société, c'est le cas. Hein. Il y a que la minorité qui atteint le sommet, et la masse reste en dessous. Malheureusement, il y a une sorte de pyramide dans chaque société, sur le plan professionnel. J'aimerais aussi parler des étudiants. Nos étudiants, ils travaillent très bien, en général. Ils sont très bien appréciés. J'ai fait le tour des universités en Afrique du Sud et des écoles techniques. Je suis vraiment fier de nos enfants qui étudient en Afrique du Sud. La plupart réussissent très bien, ils sont appréciés. Mais par contre, il y a aussi des Congolais qui partent en aventure. Il n'a aucune qualification, il n'a pas d'emploi, il va aux aventures. Quand vous allez aux aventures dans un pays, bien sûr, vous allez rencontrer des choses difficiles, que ce soit en Afrique du Sud, en Europe, en Amérique, en Asie. Si vous n'avez pas d'emploi, vous allez souffrir. C'est tout à fait normal. Il y en a qui vont en Afrique du Sud en espérant qu'à partir du Sud du Sud, ils peuvent aller en Europe. Ils sont là-bas en transit. Ils arrivent en Asie du Sud et puis là, ils prennent parfois des faux documents et essaient d'aller en Europe et cela se fait arrêter.
Est-ce qu'il vous arrive, monsieur l'ambassadeur, d'organiser des rencontres avec les Congolais qui vivent en Afrique du Sud?
Oui, bien sûr, on est en contact permanent. Toutes les couches de la communauté congolaise en Afrique du Sud, on est en contact permanent. Nous connaissons les problèmes, on essaie de venir en aide dans la mesure du possible. Si tout
vous avez des mesures d'encadrement?
Des mesures d'encadrement. Quand il y a eu, par exemple, les attaques des xénophobies, bon, on est allé le voir, on a distribué des couvertures, on leur a donné à manger, on a mobilisé des ressources pour leur venir en aide, ainsi de suite. Donc on essaye, nous n'avons pas des ressources financières pour intervenir de façon conséquente, mais de temps en temps, quand il y a des problèmes, nous allons dans les supermarchés, nous demandons aux sociétés sud-africaines, aux organisations sociales, on leur demande de continuer de venir en aide et souvent ils répondent positivement.
Est-ce que vous avez le chiffre exact des Congolais vivant en Afrique du Sud aujourd'hui?
Pas vraiment, parce que tous les Congolais ne viennent pas se faire enregistrer à l'ambassade. Nous avons une base de données, on les encourage de venir prendre une carte consulaire, comme ça on connaît le nombre, mais on n'a pas le nombre exact. Les gens estiment qu'il y a entre 80 et 100 000 Congolais en Afrique du Sud. C'est la diaspora la plus importante à l'extérieur du pays.
Parlant de l'ambassade de l'RDC en Afrique du Sud, certaines personnes pensent que c'est parmi les ambassades congolaises les mieux entretenues par rapport aux autres ambassades de la RDC à travers le monde. Comment expliquer cela?
Bon, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, étant donné que je viens du secteur privé, on a introduit des méthodes qui nous permettent de gérer l'ambassade comme une entreprise privée avec beaucoup d'efficacité. Par exemple, en Afrique du Sud, il y a 117 missions diplomatiques et nous sommes la seule ambassade qui est en mesure de donner le visa le même jour. C'est-à-dire quelqu'un qui introduit son passeport le matin, l'après-midi, à son visa.
Et c'est pas ce qu'on apprend, monsieur l'ambassadeur?
Si. À Pretoria, c'est comme ça. C'est comme ça que nous fonctionnons.
Il y a des étrangers qui nous ont dit que pour avoir le visa congolais, c'est vraiment un problème en Afrique du Sud.
Pas du tout. S'il a un problème, c'est que son dossier n'est pas complet. Mais quelqu'un qui n'a pas de problème, qui est un professionnel, qui est ici pour des raisons de service, qui est une lettre d'invitation, il ne sait pas plus de deux jours pour obtenir son visa. Nous sommes même en mesure, parfois, d'aller à l'aéroport et donner des visas aux gens qui viennent de Cape Town, qui sont en transit. Et qui viennent en mission en République démocratique du Congo. Surtout si ce sont des officiels. Les officiels sud-africains, quand ils viennent, on leur pose pas de questions parce qu'ils ont une note verbale du gouvernement sud-africain et là, on leur donne visa tout de suite. Ce qui n'est pas le cas ici. Hein, vous voyez, la réciprocité n'est pas encore là. Parce que je sais que beaucoup de gens, beaucoup d'officiels congolais m'appellent pour intervenir pour qu'ils obtiennent un visa
à
l'ambassade de l'Afrique du Sud à Kinshasa. Bon, je sais que nous sommes en contact avec le gouvernement sud-africain à ce sujet. Mais à Pretoria, je vous garantis, les visas sont donnés le même jour ou alors le lendemain.
Et comment se présentent aujourd'hui les relations entre la RDC et l'Afrique du Sud, monsieur l'ambassadeur?
Elles sont très bonnes. On a de très très bonnes relations et c'est le seul pays avec lequel on a une grande commission mixte présidentielle. C'est-à-dire, quand nous avons les grandes commissions mixtes, ce sont les deux chefs d'État qui président ces séances des grandes commissions mixtes. Et on le fait deux fois par an. C'est le seul pays au monde avec lequel nous avons des relations. Donc, c'est pour vous dire que nous entretenons des très bonnes relations avec ce pays.
Radio Kakine, grand témoin.
Bénin Poko est aujourd'hui l'invité de grand témoin. Il est ambassadeur de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud. Alors, monsieur l'ambassadeur, quels sont vos moments de détente quand vous n'êtes pas au bureau? Comment vous passez votre temps?
Je ne suis pas au bureau, je suis à la gym. J'aime bien la gym, ou alors je passe le temps avec mes enfants, jouer au football. De temps en temps, je fais la pêche. Ça me rappelle mon enfance.
Et la musique, vous aimez aussi?
Bah, bien sûr, naturellement. Je ne connais pas un seul Congolais qui n'aime pas la musique. J'adore la musique congolaise. J'ai mon iPod, j'ai la collection de toute la musique congolaise depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. J'aime aussi la musique classique, parce que bon, ça me détend. Nous qui avons grandi pendant l'époque des Kabasele, des Francor, quand le chemin débutait et tout ça, bon, on a vu l'évolution de la musique congolaise. J'écoute tout le monde parce que ça vous donne cette variété-là.
Vous chantez aussi bien?
Et non, les gens m'ont utilisé une voix chantante, mais je ne chante pas.
Et danser?
Des, bien sûr.
Très bien.
Et ça c'est congolais, ça.
C'est dans le sang.
C'est dans le sang. C'est dans le sang.
Acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Actualité oblige, nous allons en parler un peu. C'est le 29e sommet de la SADC, donc la communauté de développement de l'Afrique australe, qui s'est tenue à Kinshasa du 2 au 8 septembre dernier. Raison pour laquelle je crois que vous êtes ici à Kinshasa.
Oui, c'est ça, c'est exact.
Et au cours de ce sommet, Joseph Kabila, président de la RDC, a accédé à la présidence de cette organisation sous-régionale. La première, il faut le dire, organisée en RDC. Pourquoi ce choix de la RDC, monsieur l'ambassadeur?
Bon, d'abord parce que les partenaires de la SADC se rendent compte que le Congo est un géant qui se réveille et qu'il faut lui faire confiance. Il faut qu'on occupe la place qui est la nôtre au sein de cette organisation régionale. C'était aussi l'occasion pour nous de remercier le pays de la SADC qui sont venus à notre secours lorsqu'on avait des problèmes de sécurité ou autres. On est aujourd'hui considéré comme un pays post-conflit. Le pays a retrouvé la paix et sa stabilité politique et maintenant, il faut se mettre aussi dans la construction. Et pour cela, on a besoin de la sous-région, de la SADC. L'intégration régionale peut nous aider à faire accélérer notre processus de reconstruction de ce grand pays qui, comme vous le savez, a traversé une situation difficile. Donc, on s'est dit, le Congo, pays post-conflit, qui devient un modèle pour le reste du continent dans la résolution des problèmes politiques, et il faut que ce pays-là commence à prendre la place qui est la sienne au sein de la SADC. C'est une marque de confiance, non seulement à notre peuple, mais très particulièrement à notre président, qui a beaucoup fait pour que le pays retrouve la paix et la stabilité. Donc, c'est ça, c'était vraiment ça le message de base pour la tenue de ce sommet dans notre pays.
Justement, en parlant de notre président, il va présider cette organisation pour un mandat d'une année. Le président Kabila a énuméré un certain nombre de priorités sur lesquelles il va travailler pendant son mandat. Il y a entre autres l'énergie, la sécurité alimentaire, l'intégration régionale, le genre et le développement, le changement climatique. Quelle lecture vous faites sur les priorités du président Joseph Kabila?
Bon, ces priorités, ce sont les priorités de la SADC. Parce que le président en exercice ne peut pas venir changer l'agenda, le programme de la SADC. C'est l'agenda de la SADC.
Okay.
Mais lui, il est arrivé au moment où les sujets prioritaires dans l'agenda de la SADC coïncident très bien avec nos propres priorités. Vous voyez, par exemple, l'énergie. Nous sommes un pays qui a un potentiel énorme en matière énergétique, avec Inga et tout ça. Nous avons un potentiel de 100 000 mégawatts, dont 40 000 mégawatts peuvent provenir d'Inga. Donc, c'est une priorité pour nous qui coïncide très bien avec la priorité de la SADC, parce que la plupart des pays de la SADC ont des problèmes énergétiques, y compris l'Afrique du Sud. Leur développement industriel est en train de se ralentir à cause des problèmes énergétiques. Pour la première fois, on a commencé à avoir le problème de délaissage en Afrique du Sud.
Mais c'est moindre par rapport à l'RDC, l'RDC qui fournit le courant à l'Afrique du Sud.
Oui, c'est moindre, mais parce qu'ils ont une autre échelle. Là, une coupure d'électricité en Afrique du Sud a un impact économique et même financier beaucoup plus important qu'une coupure de courant à Kinshasa, par exemple. La crise alimentaire, c'est une crise mondiale. C'est une priorité de la SADC, qui est aussi la priorité de la République du Congo, parce que nous devons commencer à nourrir non seulement notre peuple, mais on peut devenir les greniers de la sous-région. Nous avons des terres fertiles, mais la plupart des pays de la sous-région sont des pays arides.
Vous dites que nous avons des terres fertiles, mais nous ne savons pas les exploiter, c'est ça le problème?
Oui, mais c'est là la coopération régionale, c'est ça. Nous ne savons pas les exploiter, mais il y a des pays qui savent les exploiter. Donc, en faisant une collaboration avec le pays comme l'Afrique du Sud, on peut alors motiver une agriculture fiable et qui peut faire de ce pays un géant, un grenier pour la sous-région.
Alors, monsieur l'ambassadeur, y a-t-il des avantages qu'on gagne en étant la présidence de la SADC?
Bien sûr, l'avantage, c'est que sur le plan international, on émerge comme un leader de la sous-région. C'est le premier avantage qu'on peut en tirer. Et puisque nous avons cette visibilité, on peut en profiter pour attirer justement les investissements étrangers. Aujourd'hui, si le président Kabila va aux Nations Unies, il porte plusieurs casquettes. La casquette du président de la République, le président du Parti du Congo, mais la casquette SADC, mais aussi la casquette
CAC.
Et c'est une visibilité, c'est à nous à en profiter.
C'est vrai qu'on parle de la SADC. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne savent pas ce que c'est la SADC, monsieur l'ambassadeur?
Oui, parce qu'on a été absent, silencieux, ainsi de suite. Donc le peuple comme tel ne sait pas ce que c'est la SADC, et on a profité justement de ce sommet pour faire connaître la SADC, c'est-à-dire qu'on a fait une publicité à travers tous les médias pour essayer de faire connaître la SADC.
Et en un mot, qu'est-ce que vous pouvez leur dire de la SADC?
C'est évident que c'est une organisation régionale, mais l'autre jour, lorsque j'ai été interviewé en Lingala, j'ai dit que c'est comme un système de musique. C'est-à-dire, les gens qui se mettent ensemble, qui partagent le même espace économique, politique et tout ça, et qui essaient de mettre leurs ressources ensemble pour résoudre les problèmes qui se posent dans la sous-région, et très particulièrement pour faire avancer le programme de développement économique de la sous-région.
Vous avez énuméré plusieurs avantages qu'on peut tirer de la SADC, mais en retour, qu'est-ce que la SADC peut attendre de la RDC?
À travers notre leadership, à travers nos ressources. Nous sommes en mesure de contribuer sur le développement de la SADC en matière énergétique, en matière agricole, en matière de changement climatique, même en matière des infrastructures.
Alors, monsieur l'ambassadeur Benefoko, nous sommes presque à la fin de notre émission. Un dernier mot à tous et à toutes ces auditrices et tous ces auditeurs qui nous suivent à travers la RDC, à travers le monde et même à partir de l'Afrique du Sud.
Bon, j'aimerais dire ici, guise de conclusion, que le Congo, c'est un un pays qui se réveille. C'est un pays qui commence à jouer son rôle au sein de l'Afrique, au sein de la sous-région et même au sein du continent africain et pourquoi pas au sein de notre planète, parce que nous avons un programme qui pourrait intéresser, qui pourrait sauver le monde entier. C'est notre forêt, la protection de notre forêt peut beaucoup contribuer à la résolution des problèmes climatiques. Donc c'est un géant qui se réveille. Alors j'aimerais demander à nos compatriotes d'y croire à nous-mêmes, d'être confiants que nous sommes en mesure de relever le défi et de faire de ce pays un grand pays au sein du continent africain.
Merci Monsieur l'ambassadeur d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
On espère vous retrouver prochainement peut-être.
Merci madame.
Voilà, grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais pour vous Bénin Poko, ambassadeur de la RDC en République sud-africaine. Sylvain Baoguerre a assuré la réalisation et la technique de cette émission. Au micro, Kelly Stoline Touté, je vous souhaite de passer un excellent week-end sur Radio Okapi.